Chapitre 29. Ce ne fut pas sans crainte que Jean-Noël retourna à l'hôtel des grands hommes. Bien qu'Annie eût paru, lorsqu'elle l'avait quitté, ne pas le juger responsable de ce qui s'était passé, il appréhendait qu'à la réflexion, elle ne lui eût trouvé, il ne savait quel tort. Aussi, d'être accueilli comme d'habitude, peut-être même un peu mieux, le soulagea-t-il. Il était 6h30. Par la fenêtre ouverte, on apercevait la bibliothèque Sainte-Geneviève, dont certaines vitres flamboyaient comme le soleil lui-même. Annie était assise à côté d'une petite table qu'elle avait poussée devant la fenêtre. Sur la cheminée se trouvait un vase dans lequel se dressaient trois lys dont la tige n'avait pas été coupée et qui embaumait la pièce. « Ce parfum est extraordinaire, » dit Jean-Noël, à qui il rappelait Nice et même cet atelier de la rue d'Assas dont il se souvenait nettement et auquel il avait tant songé pendant qu'il était au front. « Oui, mais j'ai eu toutes les peines du monde à me faire prêter ce vase. Imagine-toi que dans tout l'hôtel, paraît-il, il n'y en avait pas et c'est tout ce qu'on a pu découvrir. Enfin, les fleurs ont de l'eau, c'est le principal. » En disant ces mots, Annie avait eu une expression que Jean-Noël aimait parce qu'elle ne la laissait paraître sur son visage que lorsqu'elle se sentait en confiance, cette expression de fausse résignation que nous avons devant le manque de goût. « Le vase est trop petit, » observa Jean-Noël sans en être tout à fait certain. « Oui, je sais, c'est ridicule, mais parlons d'autre chose. J'ai beaucoup pensé au déjeuner. » Jean-Noël fut pris d'inquiétude. Annie allait-elle faire une allusion à Madame Mercier ? Je trouve ta femme très sympathique. Tu vois, on ne doit jamais juger les gens trop vite. Je m'imaginais, je ne sais pourquoi, qu'une demoiselle Wurzel ne pouvait être qu'une petite oie. Je reconnais que je me suis trompée. Odile est charmante et je suis certaine qu'elle te rendra heureux. Elle a beaucoup de gravité. Elle prend les choses à cœur. Elle est exactement la femme qu'il te faut. S'il était une appréciation à laquelle Jean-Noël ne s'attendait pas, c'était bien celle-là. « Est-ce que tu dis vraiment ce que tu penses ?» Annie regarda son beau-fils avec étonnement. « Naturellement. »« Tu n'aimais pourtant pas Odile. »« Je ne la connaissais pas. Ce n'est d'ailleurs pas cela la raison. J'ai changé d'avis tout simplement. Nous ne restons pas semblables à ce que nous sommes. Heureusement. » « Que l'existence serait monotone si nous demeurions toujours les mêmes ?» Sans qu'il fût une seule fois question de Madame Mercier, Jean-Noël et Madame Ettlinger conversèrent ainsi durant plus d'une heure. Ils ne savaient que penser de l'intérêt subi que portait sa belle-mère à Odile. Était-elle sincère ou bien voulait-elle lui être agréable ?« Tu dois être très content. » « Oh oui !» Jean-Noël était de plus en plus humilié de ne pouvoir faire autrement que de passer pour le jeune homme satisfait de son sort qu'Annie semblait voir en lui. « Sais-tu qu'il est presque 8 heures? Ta femme doit être inquiète. »« Elle n'est jamais inquiète, » répondit-il sur un ton provoquant. Il aurait voulu dire qu'il était libre, qu'il n'aimait pas Odile, mais comme ce jour où M. Wurzel était venu chercher sa fille et où Jean-Noël était resté seul avec Denise, il sentait que c'était impossible. Madame Ettlinger mit son chapeau. « Je vais aller dîner. Viens !» Ils sortirent. Une grande animation régnait dans la rue Soufflot. On eût dit qu'il était 3 heures de l'après-midi. Il y avait pourtant un garde à la porte du Luxembourg et le soleil venait de disparaître derrière ce musée dont les fresques extérieures avaient tant impressionné Jean-Noël enfant. Devant le grill-room de la rue de Médicis, Annie tendit la main à son beau-fils. « Ne fais pas attendre Odile, » dit-elle en prononçant ce prénom, comme s'il lui était aussi familier que ceux de ses frères. Jean-Noël ne répondit pas. Il était si heureux près de sa belle-mère qu'à la perspective de la quitter, il se crut reporté à quelques années en arrière, à cette époque où il se rendait aussi souvent qu'il le pouvait, avenue de Malakoff. Annie ne menait-elle pas une vie indépendante qui avait des analogies avec celle qu'il avait jadis menée ? Si cela ne te dérange pas, je vais dîner avec toi. dit-il, non plus sur un ton suppliant, mais comme si rien n'était plus naturel.
Tu ne peux pas.
Pourquoi ?
Et Odile ?
Odile n'ignore pas que je suis avec toi.
Enfin, tu sais mieux que moi ce que tu dois faire.
Sa responsabilité dégagée, Madame Ettlinger se montra tout de suite plus gaie. Comme ces gens qui vous croient trop vite quand on leur ment pour ne pas gâter un plaisir, elle évita de refaire allusion à Odile. Une certaine gêne n'en plana pas moins sur le dîner, Annie et son beau-fils ne s'étant jamais trouvés réunis ainsi dans un restaurant, égaux pour leur entourage. À la fin du repas, Madame Ettlinger parla de nouveau d'Odile. Du mutisme de son beau-fils, elle avait déduit que c'était le seul sujet qui l'intéressait.
Nous aurions dû lui téléphoner pour la prier de nous rejoindre.
Elle a certainement dîné avec sa famille.
Ton mariage, continua-t-elle, me fait un grand plaisir. Ce qu'il te fallait, justement, c'était une femme ayant les qualités qui te manquent, une femme sachant ce qu'elle veut, ayant une volonté plus forte que la tienne. Je suis très contente pour toi. Dès que mes affaires seront en ordre, dès que j'aurai repris mes habitudes, il faudra que tu viennes souvent me voir avec ta femme.
Jean-Noël était de plus en plus sombre. Il souffrait de ce que l'affection d'Annie semblait se porter également sur Odile, de ce qu'il ne pouvait renier sa femme au moment où, justement, Madame Ettlinger paraissait si bien disposée pour lui. La moindre observation sur Odile eût causé une mauvaise impression. Il aurait voulu parler d'Odile comme il devinait qu'Annie en aurait parlé si elle n'avait pas été persuadée qu'il l'aimait. Au lieu de cela, il était obligé de jouer ce rôle qui lui répugnait de jeune mari amoureux, de prendre part à une conversation dont il sentait tout le conventionnel au silence que gardait sa belle-mère sur Ernestine Mercier, sur tout ce qui la touchait intimement. Combien grande eût été sa joie si sa belle-mère s'était plainte, si elle lui avait avoué ses préoccupations. Il n'eût pas hésité alors à lui dire la vérité sur ses sentiments pour Odile. L'entente qui serait née de cet aveu l'eût rendu le plus heureux des hommes.
Tu me diras quand je dois aller chez M. Wurzel, car je tiens à lui rendre une visite. Je ne veux pas que la famille de ta femme s'imagine que je cherche à l'éviter. Ils ont été très bons pour toi. C'est la moindre des choses que je les en remercie.
Et puis, ajouta Madame Ettlinger, avec un air complice qui, plus encore que le reste, fit de la peine à son beau-fils, il est utile qu'il sache que tu n'es pas seule au monde.
Je demanderai à Odile, mais est-ce que tu y tiens vraiment? Je te préviens que ce ne sont pas des gens très sympathiques.
Annie regarda Jean-Noël avec une expression de reproche.
Il ne faut jamais parler ainsi de sa famille, mon cher enfant. Personne dans la vie n'est exactement ce que nous espérons. Les gens ne sont au fond que ce que nous voulons qu'ils soient. Dès que nous portons un jugement sur une personne, nous devenons injustes. Nous devons être indulgents pour les autres si nous voulons qu'on le soit pour nous.
Je ne disais pas cela en pensant à mal.
Je le sais bien.
Ces derniers mots surprirent Jean-Noël. Jamais Annie n'avait attaché tant d'importance aux paroles de son beau-fils. Ce « je le savais bien » laissait entendre qu'elle ne croyait pas qu'il pût avoir une mauvaise intention. On était loin du temps où la plus insignifiante de ses remarques était mal interprétée. Et pourtant, Jean-Noël eut l'impression qu'il n'était aux yeux d'Annie qu'un étranger et que ce n'était que pour Jean Melchior, que pour le passé, qu'elle se donnait la peine de s'intéresser à lui. En sortant du restaurant, il voulut accompagner sa belle-mère jusqu'à l'hôtel.
« Aujourd'hui, c'est moi qui t'accompagne. Tu t'es déjà bien trop attardé par ma faute, » répondit Annie, à cause de cette manie de ne vouloir jamais être une entrave qui, quelques années auparavant, lui avait fait appréhender, chaque fois que Jean-Noël lui avait rendu visite, qu'il ne négligeât une affaire importante à cause d'elle.
« Je te conduirai jusqu'à ta porte. De cette façon, je serai certaine que tu ne rentreras pas trop tard. »
« Mais même si je rentre à 2 heures du matin, cela ne fait rien. » ne put s'empêcher d'observer Jean-Noël. Il avait le sentiment qu'à présent, une ère nouvelle venait de naître, Qu'entre sa femme et Annie, il était plus seul qu'il ne l'avait jamais été. Jusqu'à ce jour, il avait lutté pour se rapprocher de sa belle-mère et toujours, il avait rencontré un mur. Mais l'idée qu'il triompherait l'avait soutenu. Aujourd'hui, il n'y avait plus de mur. Sans doute parce qu'il était marié, qu'elle n'avait plus rien à redouter de lui, Madame Ettinger ne se dérobait plus. Elle le traitait avec une bienveillance qui, en une autre circonstance, lui remplit de joie. Elle l'accompagnait jusqu'à sa porte. Elle se souciait de son avenir. Elle lui avait même dit que, dès qu'elle aurait une vie organisée, il faudrait qu'il allât la voir souvent. Et pourtant, jamais il ne l'avait sentie si loin de lui. Il eut soudain une sensation d'oppression. Il venait de s'apercevoir que son désir d'être aimé par sa belle-mère n'avait plus aucun sens. N'avait-il pas été un enfant de croire que rien ne changerait, que tout demeurerait comme dans sa jeunesse, de s'imaginer qu'on peut, des années durant, désirer la même chose? À présent, Annie était devenue une femme comme toutes les femmes, lui, un homme comme tous les hommes. Pour la première fois, il eut l'impression qu'elle n'était plus celle dont il avait rêvé d'être le fidèle compagnon, qu'elle se réjouissait sincèrement qu'il eût épousé Odile. « C'est cette porte, il me semble, » dit Annie en s'arrêtant devant un immeuble de la rue de Babylone. « Oui. » Elle allait sonner lorsqu'il en empêcha. « Un instant, un instant. » Elle le regarda, étonnée. « Sonne si tu veux, » dit-il en changeant de ton. Il avait failli s'abandonner à un de ces élans qui déplaisaient justement tant à Annie. Il avait failli lui dire tout ce à quoi il venait de penser, lui dire qu'il l'aimait, qu'il ne voulait pas la perdre, qu'Odile n'était rien pour lui, qu'elle seule comptait dans sa vie, qu'il voulait qu'elle restât ce qu'elle avait toujours été, qu'il l'aimait mieux ainsi que sous le jour où elle venait de se montrer. Madame Ettinger appuya sur la sonnette et la porte s'ouvrit presque aussitôt. « Entre vite, » dit-elle, en cherchant déjà des yeux le taxi qui la ramènerait à son hôtel.